Le 1-800-361-4336. Le commentaire de
Mathieu Boccoté. Dépensé, pas comme les autres.
Alors, Mathieu Benoît Charrette, qui a été nommé ministre responsable de la lutte contre le racisme, et tantôt, en tout début d'émission, à 8 heures, je disais, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je disais, est-ce qu'on va avoir besoin d'un ministre responsable de la lutte contre l'intimidation, un ministre responsable de la lutte contre l'âgisme, un ministre responsable de la lutte contre la violence conjugale? Je sais pas, je me demande, est-ce qu'on a, on a déjà la Charte des droits, on a déjà un système de justice? Qu'est-ce que tu en penses?
Ah, mais je suis d'accord, hein. C'est-à-dire, nul ne doute un seul instant que le racisme soit absolument condamnable. Je pense qu'au Québec, là-dessus, on ne trouve pas de gens pour, sauf dans les marges les plus toxiques, pour dire le contraire. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette nomination? Faut jamais l'oublier. C'est un geste par ailleurs atroce, odieux, qui s'est passé à Minneapolis en mai 2020, donc c'est arrivé à George Floyd avec Derek Chauvin, on le sait, pendant 8 minutes 46 secondes, je crois, et qu'il l'étouffe. Bon. Ça se passe à Minneapolis. Ça provoque une flambée de colère aux États-Unis. À cause de l'américanisation des mentalités aujourd'hui à travers le monde occidental, eh bien, il y a une forme d'effet mimétique où des manifestations ont lieu aussi ici et où sont traduits la condition des minorités, entre guillemets, ici, dans les mêmes termes que la condition des Noirs américains. Et au terme de cela, 6 ou 8 mois plus tard, parce que le gouvernement du Québec est soumis à une forme de campagne de harcèlement médiatique pour toujours se plier à la théorie du racisme systémique, eh bien, pour répondre à ce contexte engendré par un événement américain, le gouvernement du Québec nomme un ministre de la lutte contre le racisme. Alors, encore une fois, l'idée, c'est pas qu'il faut pas lutter contre le racisme, bien sûr que non, évidemment qu'il faut lutter contre le racisme, mais une fois que c'est dit, voyons à tout le moins que la nomination de ce ministre est un effet immédiat d'un événement américain qui a été projeté ici par une espèce d'effet d'imitation culturelle et médiatique. Autre élément là-dedans, donc imaginons par ailleurs qu'il faille le nommer. Hein, imaginons qu'il faille le nommer. Eh bien, ce qui m'a fasciné, c'est 2 choses. Premièrement, dès qu'il est nommé, on lui dit d'accord, mais quelle est votre définition du racisme? C'est une bonne question. Il met de côté la question du racisme systémique. Bon, donc, il va nous proposer sa propre définition de la chose, mais qu'importe, Dominique Anglade nous dit hier à la télévision, Rimaël Khoury nous dit dans la presse, que tant qu'on se convertit pas à la théorie du racisme systémique, eh bien, on demeure dans l'inachèvement théorique. Hein. On est incapable de nommer le problème. Donc, le véritable enjeu serait là. Dernier point, on doit rester un homme blanc. Un homme blanc, c'est louche quand même. Là, il est un peu sauvé parce que c'est un homme blanc qui est en couple avec une femme d'origine haïtienne.
Oui.
Donc là, c'est un homme blanc moins pire. Bon, mais là, on est quand même dans une logique. Moi, personnellement, l'idée de trier les gens selon leurs amours, je veux dire, cet homme pourrait être avec une Québécoise de souche de Dolbeau, hein, ou il peut être avec une femme d'origine haïtienne, ou peut être avec une Asiatique. Je m'en fiche, je ne dis rien sur son degré en tant que tel d'ouverture intellectuelle à telle ou telle question. S'il était marié avec une Québécoise francophone de vieille souche, est-ce qu'il faudrait supposer qu'il est moins ouvert à cause de son histoire amoureuse et affective? Donc là, on trie dans sa vie personnelle et on lui pardonne sa couleur de peau par ses amours. C'est absurde. Je veux dire, Benoît Charrette a bien le droit d'aimer qui il veut, peu importe l'origine des gens, sans qu'on décide de connoter idéologiquement et politiquement ses amours. Je veux dire, imaginons un homme qui serait en couple avec une femme d'origine kabyle, par exemple. Est-ce qu'on doit en tirer des conséquences politiques du fait qu'il se retrouve? Ou on pourrait multiplier les exemples. À un moment donné, il faut éviter de tout idéologiser dans la vie.
Oui.
Donc, tout dans ce dossier est un peu déformé. Encore une fois, redisons-le, lutter contre le racisme, ça va de soi. Mais je note qu'aujourd'hui, soit dit en passant, lutter contre le racisme, c'est trop souvent exacerber la conscience raciale plutôt que de nous dire qu'on ne doit pas tenir compte, justement, du critère racial.
Et Mathieu, je serais curieux, je sais que je serais curieux pour chaque noir qui crie au racisme, combien il y a de personnes racisées au Québec qui ne sont pas indignées, qui ne sont pas choquées, qui sont parfaitement intégrées, qui n'ont pas été victimes de racisme, qui ont une bonne job, qui ont un bel appartement, qui vivent leur vie en tant que Québécois 100%. J'aimerais savoir quel est le ratio.
Ben, c'est une question fondamentale que tu poses. C'est-à-dire, moi, c'est pour ça que là-dessus, je pense qu'on doit toujours distinguer entre des catégories de la population et les mouvements qui prétendent les représenter. Alors, ça, c'est des mouvements qui prétendent construire politiquement la conscience raciale comme critère légitime de regroupement social. Moi, ça, je trouve ça assez... Je pense que c'est inquiétant. Puis, il faut là-dessus se rappeler, parce que j'en suis convaincu, que la grande majorité ne rêve pas de conscience raciale, mais d'intégration nationale. Et puis par ailleurs, il faut se rappeler tout, pardonne-moi, que aucun groupe, quoi qu'en pense, la théorie du racisme systémique consiste à nous dire qu'il n'y a que les Blancs qui peuvent être racistes parce qu'ils profiteraient d'une structure sociale et raciale construite à leur avantage. Donc, ils trafiquent la définition du racisme pour en arriver à une conclusion que Blanc égale racisme et racisme égale Blanc. Mais si on prend le racisme dans sa définition classique, là, la discrimination raciale, cette idée qu'il ne, il faut maintenir l'identité raciale, il faut hiérarchiser les groupes raciaux, ben, j'ajouterais que, ou que se protéger des autres groupes par refus de la mixité, eh ben, aucun groupe n'a le monopole du racisme. Il y a une chronique qui m'avait beaucoup intéressé il y a quelques mois qui est parue, je crois que c'était Anne Lovely Étienne dans le 24 heures, j'espère ne pas me tromper. Très bonne chronique où elle se racontait que à l'intérieur de la commune, elle était elle-même d'origine haïtienne. Elle racontait qu'à l'intérieur même de la communauté haïtienne, dit-elle, ou la communauté noire, eh bien, quelquefois, on va accuser les Noirs qui sortent avec des Blancs d'être des biscuits Oreo, c'est-à-dire noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur, puis c'est presque une forme de trahison raciale, nous disait-elle. Moi, j'étais surpris quand j'ai lu ça, franchement. J'imagine, je suis incapable d'imaginer une conversation avec mes autour de moi où les gens diraient, oui, mais si tu sors avec une femme noire ou asiatique ou latino, tu trahis ton groupe racial. C'est-à-dire, quelqu'un qui dirait ça, on serait scandalisé. Oui. Et là, elle nous présentait ça, moi, ça m'avait beaucoup frappé comme une conversation normale dans certains milieux. Et de ce point de vue, elle avait fait un vrai travail de journaliste pour nous rapporter ça. Le fait avec beaucoup d'empathie, parce qu'elle-même est en couple, nous disait-elle dans ce texte-là, avec un homme, qu'elle disait, un italo-canadien, je crois. Mais imagine-t-on, mais ça, pour moi, la discrimination raciale, sur le mode de dire que quelqu'un sort avec quelqu'un d'un autre groupe racial, c'est de la trahison raciale, c'est du racisme, ça. À tout moment, si les mots veulent dire quelque chose, c'est très grave, c'est très, très grave. Or, les Blancs, entre guillemets, si on veut à tout prix parler comme ça, n'ont pas le monopole du racisme. Je veux dire, il n'y a pas de doute qu'il y a du racisme chez certains Blancs au Québec, mais il y en a dans tous les groupes ethniques. Aucun n'en a le monopole, quoi qu'on en dise.
Ben, attends une minute, le racisme entre les Japonais, les Chinois, entre aux États-Unis, entre les Coréens, les Noirs, écoute, là. Et tu parlais d'entrée de jeu, tu rappelais que tout ça est parti, bien sûr, dans l'affaire George Floyd. Et des fois, j'ai envie de réécrire la fable de la caverne de Platon. Bon, pour ceux qui connaissent pas, des gens qui sont nés dans une caverne voient des ombres sur un mur et prend ces ombres-là pour la réalité parce qu'ils n'ont rien vu d'autre. Et moi, ce serait des Québécois, OK, qui ont grandi dans une caverne, on les met devant CNN à la télévision et ils croient que c'est le Québec.
Ouais.
Ce qu'ils voient à CNN.
Non, c'est une très bonne image, parce qu'effectivement, on a cette espèce de projection mentale sur les catégories américaines, quelquefois, qui va jusqu'à la relecture de notre histoire à la lumière de l'histoire américaine. Je veux dire, on cherche à nous faire croire, c'est quand même assez culotté, que l'esclavage des Noirs était un pilier de la Nouvelle-France. Non, mais dans quel monde on vit? Je veux dire, est-ce qu'il y avait des cas d'esclavage qui étaient... Premièrement, que c'était pas fondateur de l'ordre social. Sur le plan quantitatif, on peut dire pour le moins du monde que c'était pas particulièrement nombreux. Est-ce qu'il y en avait? Oui. Est-ce que c'est condamnable? Il y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que c'était comme aux États-Unis? Non seulement c'était pas de même ampleur, mais c'était pas de même nature. C'était pas un système esclavagiste qui fondait la Nouvelle-France. Et il faut quand même là-dessus, faut revenir sur Terre. Or, on nous explique qu'aujourd'hui, il faudrait réinterpréter notre histoire à cette lumière-là. Et puis, je reviens sur ce que tu disais qui était très juste, me semble-t-il. Tu dis entre les différents groupes, il y en a des tensions raciales, plus que la liste des groupes, mais c'est qu'au cœur de la théorie du racisme systémique. C'est pour ça que là-dessus, je critique certains commentateurs qui l'embrassent sans même se rendre compte qu'ils embrassent. Si on lit Robin DiAngelo, si on lit Ibram X. Kendi, si on lit les différents rapports d'autorité, des différentes autorités qui prétendent lutter contre les discriminations puis qui utilisent le concept de racisme systémique, on nous explique presque rituellement, avec des formules convenues, que le racisme, c'est l'autre nom donné à l'expansion européenne depuis 1492, donc la découverte de l'Amérique. Et qu'est-ce que c'est? C'est un système de hiérarchisation fondé sur la supériorité blanche intrinsèquement. Et donc, le racisme, c'est ça. Le racisme, c'est l'expansion européenne. Et donc, tous les Blancs sont racistes. Pourquoi? Parce que tous les Blancs ont été socialisés vers une culture raciste, et même si elle n'en est pas toujours consciente. Et le racisme est nécessairement blanc parce que c'est une structure de pouvoir à l'avantage des Blancs. Et là, donc, on tricote des nouvelles définitions, on joue dans un jeu, on fabrique des définitions nouvelles pour restreindre la définition du racisme, pour l'orienter, pour la tripatouiller, pour en fabriquer une nouvelle. Et là, le commun des mortels, on comprend ce qui se passe. Le commun des mortels entend le mot racisme. Toi, moi, tout le monde, on dit, mais c'est terrible le racisme. Mais entre-temps, la définition a changé. Puis on en arrive à une définition, finalement, le racisme, c'est l'autre nom de la civilisation occidentale. C'est l'autre, tout comme on fait avec le mot avec suprématie blanche. La suprématie blanche, c'est le Ku Klux, c'est quand même grave, c'est odieux, c'est abject. Mais là, on va nous dire aujourd'hui que la vraie suprématie blanche, c'est l'universalisme. Hein, c'est la volonté de ne pas voir les couleurs. Ce qui fait, je me permets de le citer à nouveau, Ibram X. Kendi, le théoricien de l'antiracisme à la mode aujourd'hui aux États-Unis, qui nous dit que la vraie lutte contre l'antiracisme, c'est pas contre la alt-right qui rêve d'un ethno-État blanc aux États-Unis, c'est contre les universalistes qui prétendent ne pas tenir compte de la couleur dans la définition de la société. Le vrai combat contre le racisme, c'est pas contre les cagoules du Ku Klux Klan, c'est contre ceux qui refusent de centrer la société sur le phénomène racial. C'est avec ces gens, c'est avec ce système idéologique-là qu'on doit aujourd'hui se battre. Alors, le bon Benoît Charrette qui se retrouve là, sachant qu'il est désormais ministre de cela, sachant qu'il, j'espère qu'il va être conscient de la signification des termes qu'il embrassera, parce qu'on embrasse jamais un concept plus impunément.
Écoute, qu'il va être sous surveillance. Hein. Et écoute, demain, j'aimerais te reparler d'autre chose. On pourra en discuter longtemps, mais j'ai lu un texte, en fait, c'est un philosophe à la télévision française, qui se plaignait qu'il n'y a pas suffisamment de noirs dans les orchestres symphoniques. Mais écoute, on pourrait faire la même chose avec, je sais pas, les groupes de jazz. Le jazz, il y a beaucoup de noirs dans le jazz. Ces attaques-là sont complètement absurdes. Tiens, on pourra s'en reparler demain.
Merci. C'est de faciès, c'est de la comptabilité raciale.
Ben oui, comptabilité raciale. On va aller voir maintenant. On va aller au concert avec une calculatrice. Savoir combien qu'il y a de noirs par rapport aux blancs. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Bonne journée.
Bonne journée. Bye bye.